Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. Nous sommes le vendredi 12 janvier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bon, on donne la date, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt en podcast, puisque par définition, on ne les écoute pas en direct. Mais c'est toujours pour resituer un petit peu la chose. Bonjour, mon cher Eric.
Salut, Brice.
Ravi de te retrouver pour une petite heure. Alors là, je pense qu'on sera sur moins d'une heure aujourd'hui parce qu'on a deux questions. Le froid a givré nos auditeurs sur place.
Oui, mais bon.
Totalement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de questions, évidemment. Donc voilà, ça compense un petit peu les podcasts peut-être trop longs. On a Virginie et Sandrine, voilà, qui nous abreuvent de leurs questions. On aura l'occasion de s'y arrêter comme on le fait chaque semaine. Comment ça va, Eric ?
Bah, très bien. Hein. Ça fait plaisir d'avoir du froid.
Moins 2, moins 4, moins 6, moins 10.
Ouais, même si dans les médias, on a l'impression que c'est, voilà, c'est terrible. Hein, voilà, ça permet d'occuper au moins 20 à 30% les informations des heures ou des demi-heures. Comme ça, c'est, voilà.
On s'arrête deux secondes là-dessus. Et à partir de quelle température négative, en fait, c'est considéré comme du grand froid? Alors que tous les météorologistes disent, attendez, c'est pas une vague de froid, c'est juste un petit épisode hivernal. Effectivement, il n'a pas dégelé la journée dans une grande partie de la France. Après nous, voilà, en Alsace, bon, on voit que dans le sud, ils ont déjà 10 degrés, 10, 12 degrés, et puis tout le monde n'a pas gelé. Une grosse partie. Et puis, allez, on va juste taquiner un tout petit peu ceux qui sont en Île-de-France. Et en l'occurrence, il y a une partie quand même des journalistes où s'il fait froid à Paris, il fait froid dans le reste de la France. Je sais pas, Eric.
Non, mais c'est après que moi, le principe, quand je travaillais vraiment tout le temps dehors, moi j'avais froid au moins, c'est qu'il faisait froid. Mmh. Et dès que j'avais froid aux oreilles, au bout des oreilles, voilà,
c'est qu'il
commençait
très froid.
À être grand froid.
Ouais.
Voilà.
Là, mais... t'as pas eu ce stade-là
ou si, non, là c'était, t'as froid aux mains, mais si t'es bien habillé, il n'y a pas de souci. Bon. Ce qui est plus embêtant, c'est des fois un peu c'est l'humidité, et surtout, moi, ce qui m'embêtait plus, c'était le manque de soleil. Hein. C'est assez déprimant, même si le 15 janvier, c'est la journée la plus nulle, ou je sais plus quoi.
La journée la plus nue ?
Oui, nulle.
Ah, nulle, pardon. Ah, non, oui,
nul,
ah,
c'est,
bon.
Nul, c'est pas tout de suite. Hein. Ah, bah, le jardinage nu, c'est le 4 mai. Hein, donc,
on se souviendra, donc, bien sûr. Donc, on sera un concours cette année.
La journée la plus déprimante, je sais plus si c'est le 15 janvier par là, donc. Voilà, mais là, il faut savoir que là, bah, c'est une bonne chose pour le froid, hein, pour que ça calme un peu la végétation, parce qu'elle était vraiment très vite partie. Alors, c'est sûr que celle qui est vraiment partie, ben, voilà, les moins 5, moins 6, c'est mauvais. Et souvent, les moins 10, moins 12, pourquoi je parlais tout à l'heure de ça, c'est des fois, souvent, quand on met, est-ce que cet arbuste qui n'est pas forcément de chez nous, est-ce qu'il résiste ? Des fois, on dit, voilà, ça peut aller jusqu'à moins 8, moins 10. Voilà, c'est une barrière un petit peu si les températures, parce que 8, moins 8, moins 10, ça veut dire que le sol commence à geler, quoi. Hein.
Oui.
Donc, surtout si c'est en journée où il fait encore moins 2, moins 3. Donc, c'est ça qui est un peu important. Mais là, bon, voilà, ça fait vraiment, c'est top, quoi. Hein.
J'ai une question pour le coup personnel, parce que voilà, je vais rajouter ma question à celle de Sandrine et de Virginie, mais moi, je le fais hors cadre. Pour le coup, j'ai un magnolia que j'avais en pot que j'ai dû rentrer parce que à moins 10, à mon avis, il n'aurait pas trop aimé au niveau du pot. Il a été rentré il y a 15 jours, hein, donc il avait déjà commencé à grossir au niveau des bourgeons. Là, il est dans le garage, il fleurit.
Ah oui,
dans
non,
le garage,
c'est
dans le garage, il est 10 degrés.
C'est terrible.
Eric, c'est parce que octobre-novembre était très chaud, donc du coup, c'est ça.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et là, ça, c'est le pire, hein. Quand tu rentres et puis tu ressors, alors là, c'est top.
Oui, mais en même temps, dehors, il n'aurait pas tenu parce qu'il n'était pas en pleine terre.
Ouais.
Il était dans un pot, donc ça aurait été, à mon avis, très compliqué quand même pour le pot. Donc bah, là, forcément, 2024, il n'y aura pas de floraison.
Bah non, si ça... Toutes les plantes qui ont déjà fleuri en septembre, octobre, début novembre, il y en a eu là, hein, pas mal.
Ouais,
hein.
Ouais.
Bon, bah, cela, il fleurit. Ça va fleurir partiellement, parce qu'il y aura toujours des bourgeons qui vont venir. Voilà. Mais sinon, voilà, hein, à part les arbustes à floraison sur pousse de l'année, Donc là, mais les arbres fruitiers, par contre, voilà, c'est foutu, quoi.
Dernier point. Alors, on a parlé évidemment de l'Île-de-France qui s'excite quand il fait moins 1 au mois de janvier, mais pas que l'Île-de-France. Mais bon, c'est vrai que des fois, il y a un petit parisianisme qui est assez bizarre de chez nous en province, là. Assez difficile à comprendre. Concrètement, le froid, et je dis le froid, on n'est pas forcément sur du grand froid, mais le froid, voilà, moins 4, moins 5, moins 6. Et que ça gèle même, ouais, même la journée, comme quoi, hein, tout arrive. Au final, c'est quoi les bienfaits pour la végétation? Tu dis ça a calmé évidemment les ardeurs.
Oui, bon, c'est okay, ça, parce qu'après, la végétation, parce qu'en fonction des arbres et des arbres, enfin des espèces, il faut une quantité de froid pour pouvoir débourrer, c'est-à-dire que le bourgeon fasse de nouvelles feuilles ou des nouvelles fleurs.
Mmh.
Et il y a des arbres, il y a des arbustes qui n'ont pas besoin de beaucoup.
Voilà. D'accord.
Donc là, il suffit qu'il y ait un petit coup de froid, je veux dire, qu'il y a eu auparavant, bah, ça commence à grossir. Et là, le fait que s'il fait beau après, bah, ça va s'épanouir. Et c'est là que ça risque surtout de se prendre les gelées noires de printemps. Et ça, c'est terrible.
Donc, ne serait-ce qu'en termes de gestion de la dormance, c'est très bien.
Ça, bah oui, tout à fait. Bah là, je prends le cas, hein. On me posait la question, je donne des cours de taille, là, fruitière et autres. Bah, avant, jusqu'en Alsace, par exemple, en plaine, je ne parle pas des sur le Piémont ou en basse montagne, je taillais jusque le 1er avril, je finissais.
D'accord.
Maintenant, les formations, je les arrête le 15 mars, hein, parce que donc, tous les ans, on gagne un peu.
Ouais, tu as ce fameux décalage.
On perd du temps, on perd des périodes de taille, et surtout, bah, plus on va avancer en saison, plus on risque d'avoir, quand il y a la floraison, des coups de froid. Donc, il faut mieux que ça fleurisse normalement. Hein. Si on pouvait rattraper le 1er avril, ça sera bien. Mais là, c'est pas le cas. Quoi. On est mal barré pour que ça puisse se faire comme ça. Quoi.
Dernier point que je voulais te poser, évidemment, au niveau des adventices. Les fameuses, ça c'est tout bénef, là on est d'accord, c'est pas mal.
Oui, alors les plantes et les adventices annuelles, entre guillemets, pour faire simple, les mauvaises herbes qui sont annuelles, bon bah là ça va les, voilà, ça va les
quick
en l'air. Voilà, donc bon, bien sûr, les adventices qui sont, je dirais, plutôt vivaces, type chien dent et compagnie, bon bah là, de toute façon, ça va rentrer en dormance à travers son système souterrain, donc il n'y a pas de problème, les jardiniers et les jardinières auront toujours plein de graminées dans leur jardin, mais ceux qui sont voilà, plutôt annuels, bon bah là ça va le mettre tout à plat. La seule redémarrage qu'il pourra avoir, parce que ça fait plein de graines, ça sera au printemps.
D'accord.
Et là, même les adventices, ou voire même nos fameux engrais verts, hein, moutarde et compagnie, ils en ont pris un bon coup. Bah là, vous avez deux solutions, hein. Soit vous laissez dépérir, ça peut être faire des plantes sèches un petit peu, ça va faire un peu pampa dans votre jardin. Ou soit vous les couchez simplement avec une planche de bois qui va les mettre au sol, et puis c'est, voilà, c'est top. Hein.
En résumé, l'idée c'est évidemment de faire un nettoyage par le froid. Dans les allées, on est d'accord que bon, en général c'est souvent de l'annuel. Ça c'est pas mal aussi, parce que ça permet aussi de nettoyer, on est d'accord.
Oui, tout à fait. Et puis alors, surtout, la grande chance, c'est si on a de la neige, quoi, bien sûr.
On est d'accord, voilà.
La moindre petite période de neige, qu'elle soit plus ou moins longue, mais l'idéal c'est qu'elle serait longue. Hein.
Et bénéfique.
Et bénéfique. Alors, bien sûr, pas sur la route et faire des accidents, hein, on n'est pas non plus des fous furieux et des malsains de ce côté-là. Mais sur le sol, tant qu'il y a de la neige, laissez cette neige, voire ratissez à les endroits où vous ne voulez pas votre neige. Bien sûr, sauf si vous avez mis du sel. Vous les balancez dans votre jardin. Hein. C'est quand même vraiment un top. Alors, c'est pas simplement pour l'apport d'azote que ça va apporter. Hein. La neige amène un petit peu d'azote dans le sol, c'est pas simplement.
Oui, mais tu avais dit, voilà, c'est quand même relativement anecdotique. Hein.
C'est anecdotique, mais c'est surtout le fait que ça fait une couverture, ça protège les plantes qui sont en dessous. Hein. Ça fait le système de l'igloo, pour faire simple.
Donc, igloo, ça, igloo.
Igloo, oui, c'est ça. Et surtout, ça évite que vos plantes de trop geler en dessous, quoi. Et puis surtout, bah, ça va apporter de l'eau, je veux dire, gentiment, au fur et à mesure, dans le sol. Et le sol va pouvoir jouer son rôle d'éponge. Et non pas, le sol ne sera pas lessivé par les pluies. Quoi.
Donc, en gros, on est,
ouais.
Comment dire, on est dans l'idée qu'on a une espèce de reset avec ce froid qui était plus qu'attendu, clairement.
Et, et là, par contre, bien sûr, hein, on est bien hors zone qui sont encore inondés. Hein, où là, c'est...
Oui, oui, on est d'accord.
Et là,
oui.
Ça montre bien qu'on a un gros souci. Alors, ce n'est pas pour taper sur des situations. Hein, ils ont déjà assez de difficultés à vivre le quotidien. Hein, je dirais même, je ne sais pas comment ils peuvent faire. Mais enfin, bravo, hein, moi, je leur dis déjà. Mais ça montre bien que s'il y a des eaux, sauf eau qui est, je veux dire, dans une rivière, dans une mare, des eaux sur un sol, c'est pas top, quoi. Donc le principe, faut que bien que une fois qu'il pleut, il faut bien que cette eau rentre dans le sol, quoi.
Mmh. Voilà. Ouais, c'est ça, ce qu'on disait déjà la dernière fois.
C'est comme on a dit la dernière fois, hein, dans notre long papotage de début, il faut absolument recréer des haies, il faut absolument recréer des zones boisées, il faut absolument recréer des zones où le sol est capable de récupérer de la flotte, pour justement on n'est pas de créer ces espèces de zones de patins à glace là, qui font pas de bien. La neige, oui, mais pas de la glace, quoi.
Bien. Eric, je te propose de parler du tempo au jardin.
Oui, donc avec voilà.
Un copier-coller, encore une fois.
Oui, c'est un copier-coller. Hein. On en a encore 15 jours, là, voilà, avant de faire les premiers semis, je dirais à la maison, hein, voilà. Mais on sera plutôt sur un travail qu'on fait, et puis après, en deuxième partie, on va répondre aux deux questions. Et puis le troisième point, je continue dans ma logique de taille, de différence, voilà, zone. Hein. On était en taille arbustive, fruitière, petit fruit. Et là, c'est souvent des plantes qu'on s'occupe un peu moins et on fait comme ça, vite fait, bien fait. C'est ce qu'on appelle les lianes, hein, ce qu'on appelle dans le milieu naturel la strate verticale, hein, celle qui va monter dans les arbres. Et donc, je parlerai à la fois de clématite, de vigne vierge et de chèvrefeuille.
Alors, c'est dommage parce que tu as annoncé. Alors, c'est très bien, hein, tu fais l'émission tout seul, tant mieux. C'est bien. Je voulais te lancer. Hein, tu vas nous parler des lianes.
Ouais, c'est ça.
Je voulais faire un. Mais bon,
non, mais là,
je coche.
Parti. Je coche. Là, j'étais parti. Là, bon. C'était bon.
Ah, c'est bien. Non, mais c'est très bien.
C'est donc, mon
du
côté
coup, là, maintenant. Place.
C'est mon côté Cheetah et Tarzan.
Ouais, mais c'est très bien, justement. Mais je voulais faire une vanne par rapport à ça. Mais bon. Donc, je te propose de passer. Aux deux questions, on va commencer par Sandrine. Elle nous a envoyé sa question sur monjardinbio.com, contact@monjardinbio.com. Bonjour et tout d'abord, bonne année merveilleuse. Santé à vous et à votre podcast. Je fais de nouveau appel à vous, concernant une question que je me pose. J'habite dans le Doubs, à 750 mètres d'altitude. J'ai planté il y a un an et demi, deux pommiers en espalier belle fille de Salin. Le long de ma terrasse. Ils ont l'air de bien se plaire. J'ai bien sûr fait la plantation un petit peu de façon précipitée, hein, et donc fait une structure pour le maintenir sur ce que j'avais. Ça donne un résultat plutôt bof. Alors, pour le coup, Sandrine ne nous a pas envoyé de photo parce qu'elle m'a marqué. Je vous ai montré la photo. Non, on n'a pas de photo, Sandrine, hein, mais on va essayer d'imaginer. De plus, je vous ai entendu dire dans une des émissions qu'il ne fallait pas palisser directement sur les fils. Car ceci pouvait blesser les branches.
Tout à fait.
Je suis un peu perdu, car étant donné qu'ils sont gainés, je n'arrive pas trop à comprendre d'où viendrait la blessure. Pourriez-vous me repréciser ce point ?
Gainé.
Il y a d'autres questions, hein, mais
dans le sens, qu'est-ce que voudrait dire gainé ?
Alors, j'ai pas la photo du coup, donc c'est compliqué.
Alors, le principe, c'est que pour faire des formes palissées, ce qu'on appelle par exemple des formes savantes, hein, qui peut être simplement un cordon, hein, comme on avait parlé avec une question précédente il y a 3-4 podcasts. Ça peut être du U, du W, ça peut être du drapeau marchand. Enfin, voilà, plus ou moins, plus on va aller dans le U, W, on va être dans les formes savantes. Et il faut savoir que en principe, il faut des fils de fer. C'est-à-dire il faut du fil de fer parallèle au sol qui vont permettre de tenir l'ensemble. Et quand on va parler de fil de fer, un fil de fer, quand on le tire dans la longueur, si on accroche directement le végétal dessus, le fil de fer, ça bouge. L'arbre fruitier qui est à côté bouge quand il est pris au vent, et ça fait bouger l'arbre fruitier qui est à côté aussi. Et ça fait de l'usure avec ce fil de fer. D'où l'intérêt d'attacher sur ce fil de fer avant des lattes ou des bambous. Et après, on va attacher les branches sur ce bambou, simplement avec, du raffia, des cordelettes, des nouilles arboricoles. Hein, c'est des espèces de fil en plastique, qui est assez mou. Mais du raffia, ça va très très bien, ou de la cordelette, hein, ça va très très bien aussi. Et comme ça, il y a moins de frottement, voilà, tout simplement. Parce que quand on va attacher directement sur le végétal, et ce qui se passe, c'est que quand le végétal est très proche d'une structure en fer, par exemple, bah à force qu'il y a usure, mais on ne le voit pas, hein, franchement, ça rentre dans le végétal, et à un moment, le végétal peut s'accrocher dessus et manger le fil de fer. Et c'est là que ça devient, je veux dire, la structure devient cassante. Et souvent, quand on attache une branche, une structure, une charpentière sur le fil, c'est des branches qui vont durer à vie. Ce sont les structures de base. Donc, il ne faut vraiment pas les gêner. C'est pour ça qu'en principe, on tend des fils parallèles au sol, voilà, 3 à 4, et puis après, on redessine le végétal sans avoir le pommier ou le poirier avec des bambous, des lattes. Et après, on attache au sol. Voilà.
Sandrine, pardon, nous dit, auriez-vous une idée à me donner sur des matériaux assez... Alors, les idées, tu les as données, mais sur des matériaux assez simples à trouver.
Voilà, le bambou.
Sur la récup, par exemple.
Ouais, du bambou de récup, par exemple. Okay. Hein. C'est un bois qui est assez fin. Et il est très fin par rapport à sa solidité. C'est-à-dire, même s'il est très fin, il est assez solide. Donc, ça, c'est super. Si on va prendre des bois, par exemple, si on va tailler du saule, si on va du noisetier, il va dessécher, ça ne va pas tenir bien longtemps. Ou sinon, on va prendre des lattes à toi.
Ok. Voilà. À toi ou à moi, c'est égal, mais ouais, des lattes. Voilà. Quoi. Mmh.
Donc, ça, c'est le possible. Alors, ceux qui le font avec des cornières ou avec des tiges métalliques, ce n'est pas le bon truc non plus. Parce que c'est c'est aussi du matériel qui risque d'user un peu le végétal. Donc il faut plutôt végétal sur végétal. Voilà, c'est mieux.
Bien. Pour attacher, Eric, tu disais on évite le fil de fer. Mais
ouais, voilà.
On
alors,
utilise quoi, de la chambre à air?
Ouais,
de la chambre à air. Mon grand-père utilisait toujours du cuir.
Ouais, pardon.
Mon grand-père utilisait toujours du cuir, des lanières de cuir.
Oui, voilà. Il faut que ça soit de l'organique sur de l'organique, hein, pour faire ça.
Ok.
Alors moi j'aime bien par exemple vous avez une chambre à air, alors but du chambre à air c'est pas d'utiliser l'ensemble de la chambre à air,
ouais, c'est couper des rondelles quoi,
on compte des longues tiges, voilà, vous coupez votre chambre à air en deux et vous faites à peu près 5-6 longueurs. Alors avec un ciseau qui coupe bien c'est super intéressant, puis vous en faites à l'avance comme ça vous avez toujours ça et puis après vous attachez. Alors ça peut être aussi avec des bas, alors là c'est pas de l'organique, hein. Ça peut être, faut qu'il soit quelque chose qui soit assez doux, ou ça peut être de la cordelette, hein, y a pas de souci.
Ou de la cordelette, ok, mais en tout cas, voilà, on évite tout ce qui est chaîne, fil de fer, etc. Voilà. etc. Bien, deuxième question, un des côtés du pommier est assez long et empiète presque sur le passage. Ma première idée était de faire grimper les deux branches de ce côté sur une structure en arche qui libérerait de la hauteur d'homme et rattraperait le mur de la maison. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas de photo, donc c'est un peu plus compliqué. Hein. J'avais coupé à cet effet les deux branches derrière un bourgeon partant vers le haut. Mm-hmm. À force d'écouter votre podcast, je comprends que les tailles s'avantent, sont complexes à comprendre.
Oui.
Et j'ai peur que mettant deux branches de 1,5 m plus haute d'un côté, ça ne favorise pas la mise à fruit.
Oui, c'est souvent ça, ça fait un déséquilibre. Mais après, chacun peut créer sa forme savante, quoi.
Ok. J'ai maintenant bien compris que ces pommiers vont être difficiles à mener. Je pense qu'un jour, je ne les aurais pas plantés. Je les aurais pas plantés. J'ai bien écouté vos conseils. Mes derniers sont des sions que je compte conduire en axe vertical non arrêté. Mais
super.
Maintenant, ces produits sont là, hein, ces pommiers sont là.
Oui, oui.
Et j'aimerais en faire quelque chose de joli. Merci pour vos réponses.
Alors, le principe, c'est se dire que quand on fait des formes savantes, mais purement savantes, hein, je reparle du W, et ainsi de suite, on taillait ce qu'on appelle la taille trigème, c'est-à-dire travailler à trois yeux. Et ça, il faut le tailler tout le temps. Mmh. Hein. C'est très sensible aux pucerons, c'est très sensible aux maladies, et ça demande un petit peu. Alors, il y a les gens qui me disent, mais non, c'est facile. Oui, c'est facile quand tu le fais depuis des années. Je veux dire, c'est comme, il y en a qui me disent, tailler de la vigne, c'est facile. Bah non, je suis désolé. C'est facile à comprendre, mais au bout d'un moment, faut quand même apprendre au début, et au bout de 2-3 ans, tu réfléchis plus, t'es vachement bien, voilà. Mais là, la taille trigème, et puis là, il faut intervenir tout le temps, c'est-à-dire en été, une taille en verre qui est obligatoire. Donc moi, ce que je conseille, c'est plutôt quand on fait, quand on a de la taille comme ça sur forme savante, c'est de pouvoir quand même s'autoriser que les branches s'écartent plus que normal du fil. C'est-à-dire qu'en principe, il faut que ça soit le plus proche possible de la charpentière, des charpentières. Mais moi, j'aime bien laisser évoluer le végétal. Donc, pour faire simple, toutes les branches qui poussent et qui vont vers le vers qui sont verticales, on les coupe. Voilà. Et si on a un choix avec une branche qui est verticale et une branche qui est à plat, ben on garde la branche qui est à plat.
Bien.
Bien là, pourrait, notre l'auditrice, ça pourrait l'auditrice. Elle pourrait nous envoyer une petite photo, ça serait plus simple.
Oui, justement, parce que là, le mail ne contient malheureusement pas la photo.
Je pourrais reprendre et voilà, sur la photo, de mettre quelques coups de stylo et ça serait facile.
L'appel est lancé. Sandrine, si vous nous écoutez, dernière petite question. J'aimerais tailler un noisetier de 4 mètres qui me paraît très, très étoffé en son centre. Combien de branches faudrait-il lui laisser? Je couperai bien entendu, selon vos conseils, à la base des branches. Hein. On vous remercie beaucoup et encore bonne année. Merci à vous aussi, Sandrine.
C'est-à-dire que si on veut diminuer la hauteur d'un noisetier, surtout pas l'arrêter à la hauteur qu'on souhaite, c'est-à-dire je veux un noisetier qui ne pousse pas au-delà des 3 mètres, donc je coupe tout à 3 mètres. Non, là, on inverse la logique du noisetier et en fin de compte, ça pousse encore plus haut après et toutes les branches poussent à partir de 3 mètres. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien regarder son noisetier en se décalant, c'est-à-dire en prenant un peu de distance et regarder entre le bois qui est jaune et le bois qui est très foncé. Et dans ce bois foncé, qui est souvent, malheureusement, là, il y a plein de chatons parce que c'est le bois qui est le plus ancien, donc couvert de noisettes. Bah, c'est là qu'on va enlever une ou deux cannes, enfin un ou deux rameaux pour diminuer, mais on l'enlève complètement. Voilà. Mais pas plus de 25% hein, des rameaux. Hein.
Bon. Dernière question. Le noisetier qui peut derrière aussi être tressé, aussi être réutilisé une fois qu'on a coupé. Mmh. Alors, si on n'a pas forcément de broyeur sous la main. On n'a pas forcément la place ou l'envie de faire une haie de bêtes. C'est quoi l'idée sur le noisetier? En quoi? Des tuteurs, Eric?
Oui, parce que le noisetier, c'est pratique, même si c'est des tuteurs éphémères, c'est que c'est des branches qui sont excessivement droites.
Oui, donc c'est bien,
des grosses
bien
ou des petites. Ouais. Voilà, donc le but du jeu, c'est faire des tuteurs ou des compléments de tuteurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir une base solide avec des vrais pieux. Voilà. Et après, on peut mettre des piquet secondaire qu'on peut attacher avec des cordes ou là du fil de fer qui va permettre de renforcer la structure.
Bon.
Par exemple, vous faites deux tipis avec des tuteurs un peu solides. Vous mettez à plat entre deux petits tipis, je dirais encore une branche qui est solide. Bah, par exemple, un noisetier un peu plus gros. Et puis après, tous les branches fines, bah, vous les mettez verticalement et ça va servir comme tuteur pour les petits pois, pour les haricots rames et compagnie.
Bien! Eric, je te propose de passer à Virginie qui nous envoie sa question et qui nous dit bonjour à mes jardiniers préférés. Petite question aménagement sous la forme d'une énigme. C'est bon, vous avez 3 heures. Alors, quelle plante choisir pour constituer un massif en ombre sèche? Voici mes contraintes. Massif situé contre une haie de bambou, mais en contre-haut pour éviter une trop forte concurrence racinaire. J'ai créé un grand bac ouvert sur le sol qui surélève de 40 cm par rapport au sol des bambous.
Mmh.
On est à ombre, mi-ombre, voire ombre. Ça doit monter à 1,52 m en fond de massif, assez vite car je suis impatiente. Les racines ne doivent pas être trop perforantes car le massif est contre la piscine. Et pour finir, la terre est argileuse, elle retient l'eau en hiver et c'est du béton en été. Voilà, j'ai l'impression que c'est un vrai casse-tête auquel je ne trouve aucune solution. Merci de vos conseils, jardinement vôtre, signé Virginie. PS, j'ai hâte de découvrir votre livre. Eh bien, Virginie, vous êtes la seule auditrice qui avait compris la petite subtilité la dernière fois, effectivement. Rendez-vous pour la Saint-Valentin le 14 février. On aura l'occasion d'en parler.
Parce que j'étais surpris parce qu'on n'en a pas parlé. Quoi.
Si, je crois qu'on a fait une toute petite allusion la semaine dernière. En fait,
bah oui, c'est une
allusion, fin 2023, il me semble. On a dit bientôt ça. Dans vos kiosques ou un truc comme ça.
Oui, c'est ça, mais c'est une allusion. Quoi.
Eh ben, c'est une allusion. Il n'y a pas eu de fuite. Ouh là là, c'est encore plus. Et c'est encore plus. Cette information est encore plus tenue que le remaniement. Attention.
Ouais, c'est ça, ouais, complètement.
Donc, en gros, est-ce que sur ce casse-tête, tu aurais des solutions?
Bah, ce que je propose.
C'est de mettre du gravier. Non.
Non, c'est pas ça. Ce que je propose à l'auditrice, c'est que je vais reprendre son énigme.
Oui.
Et ça va servir pour faire le podcast de la semaine prochaine.
Oh là là. Et alors là, Virginie, vous marquez des points. Hein, parce que
donc, ça va me permettre de faire un aménagement. Voilà, un peu. Voilà. Si j'ai bien compris, du bambou. Mettre des bagues devant pour éviter de subir le bambou, pour faire simple, en sachant qu'il y a du bambou qui va passer à travers le bac. Hein.
Alors, il y a effectivement. En fait, l'idée, c'est de faire un massif qui est contre une haie de bambou.
Oui, c'est ça. Donc, ça va passer. Voilà. Le gros problème, c'est que le bac qui est le long du bambou, ben, le bambou, il va passer par en dessous, il va traverser le bac, quoi.
Donc là, ça veut dire que tu ne nous fais absolument pas de réponse là maintenant.
Non.
D'accord.
Non, parce que c'est, il faut quand même réfléchir, reprendre, parce que là, c'est un exercice mathématique, quoi.
OK.
On va faire ça à la Stéphane Marie, hein.
On va faire. Oui, qu'on salue, oui. Je ne sais pas s'il nous
Voilà.
écoute, ça serait marrant de savoir. Tiens.
Non, non,
Si,
mais bon,
si, je ne sais pas
voilà.
s'il nous écoute, mais en tout
Stéphane
cas.
Marie, je reprends, j'ouvre une fenêtre, hein, il y en a plein qui le critiquent parce que par rapport à un style un peu particulier, je dirais, voilà, il fait un peu son snob. Enfin, moi, je trouve pas plus que ça. Hein. Voilà, c'est un véritable artiste. Hein. En plus, ce qu'il raconte, c'est pas des conneries. Voilà. Alors, c'est sûr
D'accord,
que.
mais donc animateur du silence ça pousse, hein, juste pour
Oui, non,
resituer
non,
les
mais
choses
voilà,
pour ceux
non, mais
qui
des
suivaient
fois, ça fait
pas.
du bien, voilà, parce qu'il y a toujours. La seule chose qui est que seule chose que je peux lui enfin, reprocher, c'est qu'il a tellement de matière, je dirais, voilà, il peut acheter toutes les plantes possibles, imaginables pour le faire, qu'on va trouver une solution.
Oui.
Voilà. Et des fois, bah, quand on additionne toutes les plantes qu'il veut mettre,
Oui, c'est un gros budget, c'est ça?
c'est un budget, quoi. Mais
Ah,
par
je me suis
contre.
toujours posé la... Oui, pardon. Pardon,
Mais
oui.
par contre, faites-lui confiance, hein. Franchement, quand vous regardez ses plans, il est sur l'ami des jardins de mémoire ou autre, voilà, c'est super harmonieux, c'est à la fois lier le vivant à la déco, c'est
Avec la lanterne, on n'oublie pas les
voilà,
lanternes.
toujours, il y a toujours, voilà, c'est pour ceux qui aiment bien la tendance feng shui, ben, c'est pas forcément feng shui, mais ça y ressemble. Donc c'est franchement, hein, c'est voilà, et puis il a une connaissance végétale, horticole, c'est super. La seule chose c'est
Alors...
qui me pose problème, moi, c'est sur le prix.
Oui, c'est ça, mais je me suis toujours posé la question d'ailleurs, comme on dit, hein, dans le métier, qui paye?
Ben
C'est-à-dire
c'est ça.
que, voilà, je
Voilà.
me suis toujours posé la question, est-ce que c'est la production qui paye ou est-ce
Voilà.
que c'est les gens qui payent
Voilà.
ça? Parce que c'est vrai que quand tu vois certains réaménagements de talus, moi je me souviens d'un truc, mais c'était, mais il y
Ah
avait
ouais,
genre
non, mais il y a
10 ou
de la.
15 mètres, une bande de 10 ou 15 mètres, et vu le nombre de plantes qui
Ah
étaient
oui, non, puis c'est de la
proposées,
plante. C'est de la plante
c'est.
horticole en plus
Ouais.
de qualité, très spécifique. Chaque plante. Alors après, se pose toujours le problème de savoir si la plante va durer et compagnie. Il y a souvent de la perte. Mais voilà, il y a un coût. Voilà, c'est tout. Alors que vous avez bien remarqué que sur le podcast, nous, faut pas que ça coûte bien cher, quoi. Hein. Donc,
Oui, on est plutôt là-dedans.
c'est
Alors,
pour
en
ça
gros...
que souvent, ce qu'on peut me reprocher, parce que j'ai toujours des fois des retours, c'est sur les conseils, par exemple, d'arbustes horticoles. Bon, voilà, moi, j'ai pas une connaissance comme peut avoir Stéphane Marie ou
Ou
voilà,
d'autres, hein, oui, bien
d'autres.
sûr.
Mais voilà, moi j'essaye toujours que ça coûte pas très cher et et de se satisfaire d'un existant qui pousse.
Qui pousse. Bon.
Voilà.
Ce
Mais par contre, là, je veux bien jouer le jeu là du voilà
Alors,
des
Virginie,
problématiques.
c'est la première fois que vous inaugurez ce pas de panique bis, entre guillemets.
Voilà.
Voilà, on va donc se servir de votre demande pour
Ouais,
faire le dossier de la semaine, parce que l'idée, il faut bien qu'on ait
voilà.
quelque chose à dire la semaine prochaine. Non, non, mais c'est intéressant parce que
Non,
là,
c'est
on
un
est un peu dans
aménagement, mais on
des...
va parler de pas mal de choses et ça peut
Ouais.
répondre à des situations parce qu'il y a plein de personnes qui se sont tapées des bambous à une époque. Alors,
Ouais.
eux, c'est eux qui les plantaient ou quand ils ont racheté la maison, ils avaient du bambou, par exemple. On a des situations comme ça et donc ce cas d'école me plaît bien parce que ça vient du public, quoi.
Eh ben voilà, parfait. Donc Virginie, rendez-vous la semaine prochaine. Désolé, on
Voilà.
n'aura pas de réponse là tout de suite, mais en même
Non,
temps,
non,
vu le
non, mais
temps,
voilà. Hein. Nous, on est très francs sur les. Voilà, hein, on
on n'est pas une
répond
semaine
là,
près.
le jour même à la question quand on le reçoit, là, et puis voilà, hein, faut réfléchir.
Bon, en tout cas, on rappelle bien sûr ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, de nous envoyer votre question sur contact@monjardinbio.com, contact@monjardinbio.com. Vous pouvez aussi, nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, mais évitez quand même les messages, parce que c'est vrai que sur Messenger, sur Instagram notamment, les messages des fois ont un peu tendance à se perdre, et c'est vrai qu'on est à plein de canaux. Voilà, le mail, c'est plus simple,
Ouais.
contact@monjardinbio.com, comme ça, on
D'ailleurs,
a
Brice avait
votre...
parlé de mettre un mail spécifique question.
Oui, bah je sais pas si on fait on s'aime fort ou si on fait OSF, parce que OSF ça veut dire un peu on s'en fout.
Non, mais
J'ai
ça peut
repensé
être.
dans les initiales.
Non, ça peut être question, c'est fort, hein.
Mais voilà, oui, c'était la résolution de 2024,
Voilà,
mais en
on peut
général, j'y
imaginer
tiens.
ça comme ça, c'est clair.
Comme ça,
Voilà.
c'est clair, effectivement. Tu as raison de me relancer là-dessus.
Ouais.
Il faut qu'on mette ça en place.
Voilà.
Je te propose pour le coup maintenant de passer sur du concret.
Du concret.
Du concret, tu vas nous parler de tes lianes.
Des
Alors, on va
lianes, voilà. Alors,
parler.
je prends des lianes à la fois qui sont
Qui sont communes, c'est
communes.
ça? Alors, rappelle-nous juste, l'idée, c'est partir quoi sur la vigne vierge, chèvrefeuille,
Oui,
la
voilà,
clématite?
voilà, chèvrefeuille, vigne vierge et puis clématite, hein. Et même sur la climatique vigne blanche, qui est je dirais, la variété, voilà, qui est plutôt sauvage, hein. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que aujourd'hui, de plus en plus, pour rafraîchir les maisons, les espaces, les pergolas, on vous dit de planter verticalement. Alors, planter verticalement, là, j'ai des trucs qui me reviennent à la tête, là, de murs végétaux que j'ai vus il n'y a pas si longtemps que ça, où c'était que des cadavres en plastique qui jonchaient les murs des maisons, voilà. Parce que c'était des cages de plastique où on mettait des plantes dedans, puis une irrigation qui était mise pour arroser chaque plante, et puis ça n'a pas marché, quoi.
D'accord.
Alors moi, je parle plutôt ce qui est autant que nécessaire. Bien sûr, vous avez plein de beaux projets que vous voyez sur Internet, Facebook et compagnie, de végétalisation de murs à partir justement de ces murs, et il y a des spécialistes qui font que ça. Ça coûte. Faut s'en occuper. Moi, ce que je vous propose, comme à notre habitude avec Brice, c'est de vous proposer des choses qui marchent facilement. Voilà.
Adaptées au plus grand nombre. C'est ça l'idée.
Voilà. Et le but du jeu, c'est quand même que la plante démarre du sol. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et donc, vous avez aussi pas mal de promotions dans ce domaine-là que vous trouvez pas trop cher, et ça va bientôt arriver dans vos jardineries et autres professionnels. Notamment, c'est avec les clématites horticoles. Hein. Voilà, les clématites qui font des fleurs complètement géniales, merveilleuses, c'est vraiment super. Alors, en sachant que les clématites, vous en avez de différents types, je ne parle même pas de la fleur, de la forme de la fleur, de la couleur de la fleur, mais plutôt du moment de floraison. Alors, vous avez des clématites à floraison estivale, Donc, le but du jeu, c'est quand vous avez des clématites à floraison estivale, c'est que c'est la pousse qui va venir à partir du printemps, qui va donc donner des fleurs. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir tailler les rameaux à une hauteur de 40 à 50 cm au mois de mars. Voilà, comme ça, c'est fait. Vous avez des clématites que vous allez voir fleurir plus tôt. D'ailleurs, c'est souvent celles que vous achetez, parce qu'elles sont déjà en fleurs. Donc celle-ci, ça ne va pas fleurir sur le bois de l'année 2024, mais sur celui de l'année 2023. C'est à partir de là. Donc, ce qu'il faut faire, faut attendre que les tiges sont un peu vigoureuses, qu'il y ait un peu de forme. Et ce que vous faites, vous enlevez les tiges les moins vigoureuses. Et vous pouvez couper au-dessus d'une paire de bourgeons. Parce que c'est à partir de ce bourgeon qu'il va y avoir une pousse qui va donner des fleurs. Donc, ce sont les tiges secondaires qui vont alors croître. Et c'est ces dernières qui vont donner des fleurs suivantes, les fleurs de l'année suivante. Donc ça, c'est super.
Okay.
Alors, globalement et pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est que pour tout ce qui est clématite horticole, on va les tailler après la floraison. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Globalement, comme ça, vous ne prenez pas la tête, parce que des fois, quand on achète une clématite, alors c'est pour ça que c'est intéressant quand vous achetez une clématite ou quand vous offrez une clématite, laissez le nom de la clématite dessus, de manière que vous puissiez faire une recherche horticole et ne croyez surtout pas ce qui est sur l'étiquette.
D'accord.
Ou croyez plutôt ce que va dire le vendeur et compagnie. Parce que des fois, il y a des erreurs. Et par contre, si vous l'offrez, si vous recevez en cadeau aussi une clématite, ça permet de chercher. Donc ça, c'est pas mal. N'oubliez pas que là, il fait froid. La clématite souffre aussi bien du froid que de la sécheresse. Donc, ces clématites horticoles, je rappelle bien. Ce que vous devez faire, c'est que là, vous pouvez encore le faire, parce que le froid il peut encore venir. C'est de mettre une épaisse couche de feuilles mortes, mais surtout pas quelque chose qui va créer de l'humidité et de la pourriture. Voilà. Il faut que ça soit des déchets grossiers, de manière que l'air passe dans ces déchets, de manière que le pied soit à l'air. Parce que souvent, et c'est comme souvent quand on va utiliser un voile de protection hivernale, ce qu'on craint, c'est pas forcément le coup de froid, c'est que quand il va faire un peu plus chaud, là-dedans, ça chauffe, c'est humide et ça va faire pourrir les plantes et compagnie. Donc là, c'est pareil, il faut qu'au pied, que ça soit bien dégagé. Alors, il y a une solution qui est super intéressante, c'est vous plantez une clématite et ça va permettre aussi de protéger votre pied de clématite, c'est de remettre un sous-arbrisseau. Un sous-arbrisseau, c'est quoi? C'est une plante vivace qui fait entre 20 et 50 cm et qui va protéger le pied contre les coups de soleil, mais aussi contre les coups de froid. Donc ça, c'est la bonne solution. Donc choisissez une plante qui ne va pas au-delà de 50 cm pour pas qu'il y ait de concurrence par rapport à cette clématite, par exemple. Et comme ça, ça vous fait une protection dans la globalité.
Le matériel, parce que bon, la clématite, c'est pas du petit fruit, c'est pas ce genre de choses. Un simple sécateur, Eric.
Ah oui, complètement. Et pour favoriser que ça s'accroche, des fils de fer, du grillage tout simple, voilà. Hein, c'est pas très compliqué.
Ouais.
Mais attention, on les protège souvent l'hiver. Mais ce qui est le plus compliqué pour la clématite, c'est quand même les coups de chaleur. Quoi.
C'est quoi l'idée justement les coups de chaleur
De protéger, soit vous mettez pareil un paillage.
Oui.
Mais l'idéal, c'est quand même de planter en mettant de vos clématites un petit arbuste au pied.
Tu parlais effectivement de protéger avec un arbuste il y a un instant. Juste la question de la concurrence, Eric.
Bah, disons que si on met un arbuste ou un arbrisseau, il y aura concurrence.
Mm.
Voilà. Par contre, si on met un arbrisseau qui est sous arbrisseau plutôt, c'est-à-dire une plante qui ne va pas au-delà de 20 ou 50 cm, bah là, il n'y a pas de concurrence.
D'accord. Donc, aucun souci. Dernière question, parce que tu nous parles effectivement des lianes. Alors, ça s'arrose, oui. Évidemment, oui. Un petit peu, j'imagine.
Oui, l'été, c'est terrible. Hein. Ça peut, surtout la première année, il faut qu'il y ait une belle installation. Souvent, il ne faut pas oublier que quand on va le mettre souvent à l'aplomb d'un mur, près...
là où il flotte jamais, quoi, en gros.
Et la terre est dégueulasse, quoi.
Ouais, ouais.
Donc là, ça manque de matière organique. N'oubliez pas que toutes ces plantes-là doivent pousser dans un sol qui est profond et riche en matière organique, c'est-à-dire pas en fumier, mais en humus ou en compost mûr et compagnie. Donc c'est pour ça que des fois, le long des maisons et le long des murs, il y a un peu tout et n'importe quoi, quoi. Donc attention à ça.
Bien.
Alors, vous avez une autre plante qui est la clématite aussi, vigne blanche, hein, qui est plutôt la plante sauvage. Et là, ceci est intéressante. Si vous avez, et aujourd'hui, moi je la conseille à 3 millions de pourcents, surtout quand on voyait par exemple des éco-quartiers et que vous voyez des zones, je dirais, des mètres et des mètres carrés de murs, de grillages qui sont mis verticalement, laissez monter une clématite, vous serez vigne blanche, vous serez tranquille. Alors bien sûr, c'est pas aussi joli qu'une clématite horticole, on est d'accord. Mais franchement, c'est d'une efficacité. D'ailleurs, vous la voyez pousser dans la nature sur des ronciers, sur des arbustes, des arbres. Alors là, on est carrément sur des plantes qui sont hyper vigoureuses. Hein. Donc, il faut que ça soit un endroit qui est riche en azote, parce que si vous le trouvez dans la nature, ça veut dire qu'à l'endroit où elle pousse, c'est un endroit d'accumulation de déchets organiques.
Mmh.
Voilà, pour ça, pour les clématites aussi, il faut que ça soit un endroit qui est riche et qui soit poussant. Alors bien sûr, quand on va travailler sur la clématite sauvage vigne blanche, là, ça va être un écosystème super. Donc, en plus d'avoir des arbres, des arbustes, des arbrisseaux, vous aurez aussi une strate verticale qui sera intéressante. Donc, laissez-vous faire un peu là-dessus. C'est une plante qui est souvent très vigoureuse. Donc, on a peur de se laisser un peu avoir. Donc, on est plutôt pas dans une taille, mais plutôt dans de la maîtrise. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas se laisser avoir par cette plante. Voilà. Alors, comme ce sont des plantes où les tiges sont quand même assez fines, c'est facile de la gérer. Et on enlève en principe ce qui dépasse, hein, pour faire simple. On peut même la laisser couvrir un arbrisseau ou un arbuste. Le seul problème, c'est que si elle se développe beaucoup, ça peut tasser l'arbrisseau ou l'arbuste. Et ça peut aller jusqu'à limiter sa croissance, voire le faire mourir. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Là, on parle de concurrence.
Bien. Alors, tu nous parlais de vigne vierge, chèvrefeuille. Même combat, on rabat.
Oui,
on...
voilà. Alors, le chèvrefeuille, alors celui-ci... Il n'y a pas grand-chose à faire, il faut le laisser faire. Par contre, on peut le rajeunir, parce que des fois, en vieillissant, il se dégarnit. Voilà.
Oui.
Et c'est là qu'on va commencer, on peut vraiment le rabattre un peu sévèrement pour qu'il y ait des nouvelles tiges et qu'il va être quand même des tiges qui seront plus florifères. Et là, il faut le rabattre à 40-50 cm du sol.
Alors, je te pose toujours la question des déchets, parce que c'est un point qui revient très souvent, et ton combat, et c'est ta résolution 2024, 2025, 2026, 2020. Bref, pardon, c'est pas encombrer les déchetteries. Hein, c'est un point qui te tient vraiment.
Voilà. Alors là, c'est vraiment un déchet qui est bien intéressant, parce que souvent, ce qu'on va enlever, c'est des déchets fins, quoi. Voilà.
Oui, mais justement, on y fait quoi? Parce que c'est un peu chiant à gérer, Eric.
Oui,
volumineux.
Le principe, c'est que soit on va le passer à la tondeuse pour le pré-broyer, grossièrement, laissant sur le sol.
Ouais.
Ou soit on va en garder pour faire des matelas, entre guillemets, qui va servir avant de planter les courges, au pied des pieds de tomates et compagnie. Parce que c'est quelque chose qui est aéré, parce que c'est de la liane, globalement, quand on va le mettre en... Ça fait une pelote, hein, pour faire simple. Donc c'est intéressant, ça ne va pas se décomposer aussi rapidement parce qu'il y aura de l'air. Par contre, ça va pas créer de la super humidité. Ça va être vraiment un couvre, ça va être un pare-soleil très intéressant.
Donc, c'est un point intéressant pour quoi? Oui. Pour au jardin, par exemple?
Au jardin, potager, voire même pour les autres plantes, les mettre au pied, comme ça, ça peut être intéressant. Et en même temps que le chèvrefeuille acclimatique, aussi la vigne vierge, où là, ça produit beaucoup, parce que c'est une plante qui est très à croissance très rapide. Mmh. Et souvent, bah, on est un petit peu envahi. Et donc, bah, le coup de sécateur, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, on va enlever les tiges voilà, plus facilement au printemps voilà, si on ne veut pas les feuilles. Et après, en cours de la saison, en faisant attention qu'il n'y a pas des oiseaux qui se sont installés dans le mur, bah, vous pouvez supprimer, couper pour faire les tours de fenêtres et compagnie. Et ce déchet, c'est un déchet qui est à la fois grossier et fin, qui est à la fois humide et un peu sec, et carboné et azoté, et c'est très bon pour le potager.
Bon, donc au final, même ça, des ouais. déchets qui ne sont pas forcément faciles à gérer parce que ça prend ouais. effectivement beaucoup de place, on peut prébroyer et puis on en fait un beau.
Complètement. Alors il y a même un petit plus qui peut être intéressant par rapport à la clématite vigne blanche, donc la sauvage, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle de la vannerie sauvage.
Voilà. D'accord. Et donc, ça, là, il en faut quand même pas mal, quoi, hein, parce que c'est vrai que là.
Voilà, c'est super intéressant pour faire des petits nichoirs, des mangeoires, des zones de protection. Voilà, hein, c'est pas avec de l'osier traditionnel, mais comme ce sont des tiges qui sont assez solides par rapport à leur grosseur, on peut faire de la vannerie sauvage terriblement avec ça.
Bien.
C'est un peu comme le cornouillé de la semaine dernière, quoi.
Ouais, et puis après, ce que tu disais aussi, c'est le faux paillage, entre guillemets, c'est-à-dire on paille et puis on met par-dessus le beau paillage, ça permet d'économiser.
Oui, voilà.
Aussi, complètement. Donc tout ça, voilà, broyer à la tondeuse, c'est vrai que c'est un point.
Voilà, et puis on le redira peut-être pas assez, mais voilà, ça fait une zone de fraîcheur super intéressante.
Bon, bah voilà, impeccable. Mon cher Eric, il est temps de passer au faux dicton du jour.
Oui, alors là, bien sûr, qui dit Liane dit ma période Tarzan.
Oui, bah, c'est ce que tu disais au début de l'émission, effectivement.
Exactement. Même si le jardinier joue à Tarzan dans son jardin, il évite de passer de clématite en clématite.
Ouais, parce que c'est pas très solide, hein, on est d'accord. On va éviter, bien. Voilà. En tout cas.
Alors attention, ça aussi, hein, c'est un faux dicton, voilà, qui va sur l'ironie, mais attention aussi, c'est qu'on fait de la taille d'arbre. J'ai déjà vu des fois, on peut faire confiance à une clématite vigne blanche, par exemple, en s'accrochant, parce qu'on a l'impression que c'est très solide. Attention, voilà, ça casse quand même, et on peut, ou même le pied, on peut se mettre le pied dedans. Quand on est monté dans l'arbre, voilà, faut toujours, d'où l'intérêt toujours d'être deux. Et là, je le répète aussi, si vous taillez en ce moment les arbres, si ce sont des arbres, hein, je ne parle pas des arbustes, des trucs qui font plus de 7 mètres de haut, déjà, si vous ne sentez pas la force, voilà, demandez des spécialistes, pas forcément les gens qui vous sonnent à votre porte pour dire que, oui, chef, j'ai des arbres à tailler, voilà, non, c'est souvent ça, j'en ai encore eu un hier. Mmh. Alors moi j'aime bien toujours vous questionner qu'est-ce que vous feriez dans cet arbre là et souvent c'est pour rabattre l'arbre quoi.
Oui, c'est plus non. de l'élagage sévère.
C'est de l'élagage au carré taille, et quoi. Je suis désolé, un arbre, voilà, c'est un arbre qui a peut-être jamais poussé plus que ça. Attention, ne le faites pas tailler, laissez-le parce que si vous taillez, c'est sûr qu'il va repousser. Mais par contre, il y a plein de gens, il y a plein de professionnels qui sont dans le domaine. Voilà, c'est super intéressant de faire appel à une équipe, et puis si vous le faites, faites-le à deux.
Bon, bah écoute, voilà. Parfait. Donc, on est, voilà, pour assurer, un sécateur, et après, il y a des échelinoirs aussi, il y a des perches, etc. Mais un peu d'équipé, c'est ce que tu disais souvent, on peut s'échanger
le matériel. Oui, là, par exemple, je fais une formation taille fruitière, même, bah, là, avec les organisateurs, ils me disaient, voilà, tronçonneuse. Ah, non, pour moi, il n'y a pas de tronçonneuse. Alors, bien sûr, hein, quand on apprend, on prend son temps. On prend une scie, voilà, on évite de monter à l'échelle, si c'est possible, hein, bien sûr. Voilà, alors je sais que quand on est à l'échelle, on peut aller plus précisément à l'endroit, mais voilà, il faut être hyper, je dirais, strict au niveau de la sécurité. Tomber de 3 mètres, ça peut être très dangereux.
On est d'accord. Bien, avec tous ces conseils, merci infiniment. En tout cas, il est l'heure, bien sûr, d'inviter nos auditeurs à vous abonner à la newsletter, à vous abonner ouais. sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Oui, ça existe encore. Découvrez et retrouvez les précieux conseils d'Eric mis en musique par Maxime, qu'on salue évidemment. Et puis, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, à partager ce podcast, à en parler autour de vous. Eric, il n'y a pas de podcast sans le faux dicton du jour, mais sans le mot de la fin que je te laisse.
À deux, c'est mieux.
Oui, c'est tout.
Bah, faire du jardin à deux, c'est mieux.
Bon, bah voilà, faire du jardin à deux, c'est mieux.
C'est bientôt le printemps, donc surveiller les mésanges, quoi.
Bon, d'accord, ça marche. Bon, bah, on va vous laisser là-dessus. Rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.